On est jeudi le 26 février. Vous êtes à Boulevard Cégravel dans le retour. Moins 4 degrés à Québec sous les nuages. On reste dans le nuageux ce soir et cette nuit avec un minimum de moins 19 degrés. Demain, généralement nuageux, peut-être quelques flocons. 40% les probabilités maximum de moins 4. Mais attention, le ressenti, moins 23 en matinée, moins 8 en après-midi. Samedi, 4 degrés au-dessus de zéro. Neige intermittente, peut-être même de la pluie. Et dimanche, on ouvre le mois de mars dans le fret. Maximum moins 10, minimum moins 22. Sous le soleil, Audrey sur les routes.
Il y a des problèmes en ce moment sur la capitale, direction Est-Auteur, Robert Bourassa, comme à l'habitude, Ouest-Auteur, Laurentienne. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Versant Nord, ça ralentit jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Dans le nord, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, Route de la Bravoure, dans les deux directions, c'est bien installé. Et sur la rive sud, c'est la 20 Ouest. Un petit peu de trafic à la hauteur de Chemin des Îles et un petit peu de trafic à la hauteur de Taniata. S'il y a autre chose, évidemment, 88-971-102, un texto.
Moment toujours très apprécié. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas au 88-971-102, notre chroniqueur auto Sam Tremblay-Michaud est en studio. Salut Sam!
Allô!
Comment ça va?
Ça va très bien.
L'hiver s'étire, t'es-tu tanné?
Non. Non, ça va. Je suis encore de bonne humeur avec ça.
Moi, l'hiver, ça va. J'ai trouvé le coupable. Le vent.
Ben oui. Mais même à chaque année, tu me dis que c'est le pire.
Le vent qui scrappe des journées qui auraient de l'allure. Ouais. Dès que tu vois que le vent s'en mêle. En fait, c'est les petits moments où il n'y en a pas.
Le vent de l'hiver est tannant, oh. Mais je préfère le vent de l'hiver que les moustiques l'été qui me piquent quand je mange dehors.
OK, on a trouvé les deux pires.
Ça m'énerve. Là. Fait on dirait que l'hiver, je profite de ne pas être le steak des moustiques.
Fait que tu manges dehors l'hiver. Et,
oui, exact, je m'habille bien.
La solution, ce serait de prendre le vent d'hiver, l'installer en été, puis il balaye les mouches.
Ça serait parfait.
Mais pas pire, ça.
On serait là.
Ben, ils vivent le vent d'hiver. Trouve-moi le gars qui a écrit ça. J'ai 2-3 mois à y dire, moi. Sam, c'est le salon de l'auto la semaine prochaine, yes. Puis tu t'installes avec nous autres.
Oui, content. Une belle invitation que vous m'avez fait, fait que je vais aller rejoindre Max de 10h à midi.
À partir de mardi prochain.
De mardi à vendredi, ben oui, avec l'équipe pour être là. Je vais animer avec Max, ça va être le fun.
Génial.
On va être en direct du salon de l'auto. Si vous avez des questions, ça vous tente de me serrer en pince, parler de char.
C'est la place pour ça. Hein?
Je vais être là. Ça va me faire vraiment plaisir.
Avec RPM, vous avez fait vos meilleurs achats de l'année 2026.
Oui, c'est toujours un grand moment. On s'installe dans une pièce, on s'ostine beaucoup.
Ben, c'est ça que je voulais savoir.
Ah oui.
Ouais, vous êtes combien autour d'une table quand vous décidez ça?
Ben, on est l'ensemble de l'équipe numérique qui est composée de 3 personnes maintenant, mais il y était 2 personnes avant. Fait qu'on était 4 avec ce pièce, 5. Fait qu'on était 5 personnes.
Juste besoin de 5 personnes pour s'ostiner.
Ah, puis c'est beaucoup trop. On pourrait le faire à 2 personnes, c'était juste de moi, parce que ça irait plus vite. Mais non, mais blague à part, toute l'équipe d'RPM se met là-dedans parce que, tu sais, oui, il y a l'émission de télé, mais il y a aussi toute l'équipe du numérique qui est là. Donc, j'ai des collègues, Sylvain Raymond, Patrick Tremblay, Kim Kaya également, qui est arrivé dernièrement, qui, eux, essaient des voitures chaque semaine également pour nourrir le site web, nourrir nos différentes plateformes. Et, ben, on prend le temps de faire une communion d'équipe pendant 2 jours. C'est 2 jours complets. On est brûlé à faim. J'étais curé de parler de choses. Vous ne pouvez pas savoir comment.
T'as le goût de devenir un piéton tout le temps.
Oui, non, mais c'est parce que là, c'est comme. Des fois, c'est des questions de valeur aussi. L'automobile est bouillant. C'est un domaine de gens passionnés. C'est beaucoup d'émotions aussi.
Bien, je vais essayer de comparer ça à. On s'ostine sur c'est qui le meilleur joueur du Canadien, mettons.
Voilà.
Tu vas voir les chiffres, les statistiques. Tu peux te servir des chiffres puis des statistiques. Tu peux te servir des notes. Sur un jeu vidéo simulé aussi, vois-tu, Suzuki, ils ont donné 93%. Mais toi, si ton joueur préféré, c'est Sam Montembeault, puis que c'est Sam Montembeault ton joueur préféré, puis que tu veux pas décrocher de là parce qu'il y a un petit quelque chose qui fait en sorte que au-delà des notes, au-delà du
arrête de statistique... parler de ma mère de même, je trouve ça difficile à entendre.
Mais j'imagine que c'est un peu ça aussi.
C'est un peu ça. La beauté, par contre, c'est que oui, exemple, on peut avoir notre Sam Montembeault, on peut triper sur notre joueur, mais des fois, faut aussi juste dire, on n'a pas le choix de se fier à des faits également. Okay. On a des historiques de fiabilité, on a des historiques de consommation, on voit les chiffres de vente aussi au Québec. Fait que, à un moment donné, on n'a pas le choix, même si on tripe bien gros sur Sam Montembeault, que c'est peut-être Suzuki qui devrait gagner finalement.
Bon, t'sais. Ben dans le même ordre, d'idées, Sam, parle-nous donc de ton char préféré qui n'a pas fait la cote cette année.
Ah oui, ça, c'est une bonne question.
T'es battu bec et ongle pour ton Montembeault du char?
Cette année, puis je vais être très transparent avec vous, ça a bien été. Okay. Cette année, je trouve que j'ai réussi à passer les messages que j'avais envie de passer.
Cette année, dit-il.
Oui, parce que l'année dernière, ça n'a pas été facile.
L'amertume ici, hein?
Ouais, l'année dernière, 2025, il y avait des modèles que je souhaitais passer dans des catégories que j'ai pas réussi. Cette année, il y a un modèle que je suis content, puis mes collègues, s'ils m'entendent, vont trouver ça très drôle, parce qu'il y a un modèle que je voulais qu'on mette comme véhicule, qu'on recommandait à RPM, parce que je trouvais que c'est un modèle qui avait quand même une fiche correcte de fiabilité, une bonne cote de consommation de carburant, un prix aussi qui est très abordable, mais comme il a le logo Volkswagen en avant, souvent, on a le réflexe de dire, ben là, la fiabilité sera pas bonne. Mais dans le cas de la Jetta, c'est pas le cas. C'est un produit qui est relativement fiable jusqu'à maintenant.
C'est quoi la différence avec, justement, les autres Volks qui vont faire dire qu'il y a beaucoup de citrons sur le marché?
Ben, c'est qu'on le voit. On le sait. Les problèmes d'écran...
Mais c'est-tu fabriqué pas en même place? Y a-tu quelque chose qui
souvent
fait...
Souvent aussi, c'est une question de complexité de mécanique. Okay. Tu sais, la Jetta, c'est un petit moulin qu'on connaît maintenant très bien, un petit 4 cylindres, 1.5 litres turbo. Volkswagen, tout ce qui est turbo-compresseur, ont quand même une expérience là-dedans maintenant aussi. C'est pas parfait. On a changé beaucoup de Westgate, on a changé beaucoup de turbo dans les années. Ceux qui ont des Volkswagen vont se rappeler ces termes-là. Mais, tu sais, on a quand même une voiture qui, dans son ensemble, est bien construite et qui méritait d'avoir au moins la cote d'approbation. C'est pas une voiture qui fait partie du palmarès des championnes, mais au moins, elle est maintenant recommandée. Et ça, je suis content d'avoir gagné mon petit bout de chemin avec ça.
T'avais le goût d'y aller catégorie par catégorie pour faire un petit survol de ça?
Je vous en ai sorti quelques-unes. On est pas obligé de toutes les faire, mais allons-y, amusons-nous. Je parlais de voitures compactes. Je pourrais vous faire les trois grandes championnes des voitures compactes qu'on a actuellement chez RPM en 2026. À la troisième position, c'est la Hyundai Elantra qui prend cette place-là. Une voiture qui est offerte avec une version plus performante, la N, avec un moteur turbo 2 litres, vraiment amusant. Manuel disponible sur le menu également. On a une version hybride. C'est une voiture qui est très économique en carburant,
moi,
qui est bien garantie.
Moi, je l'ai adorée. Je l'ai eu pendant à peu près 8 ans en tout et pour tout. Là. Je l'ai changée
en différentes incarnations.
Oui, puis honnêtement, j'ai trippé dessus.
Ben, c'est une voiture qui méritait vraiment d'être encore dans le palmarès.
Ça tombe bien, mais moi, j'ai parlé au char, puis il a vraiment pas trippé sur toi.
Non. Mais il a peut-être eu un petit peu difficile.
Peut-être. Deuxième position, la Toyota Corolla, qu'on met là, c'est une valeur sûre, on s'entend dans le marché. Elle va être due, la Corolla, pour une nouvelle génération, mais ça s'en vient. On devrait l'avoir d'ici 2027, donc à voir et à suivre. Mais malgré tout, la version actuelle, elle se vend bien parce qu'elle mérite d'être bien vendue. On a des versions 4 roues motrices, on a de l'hybride.
Ouais, ça, c'est nouveau, là, qu'il y ait toutes ces...
Oui, on a fait une déclinaison. À partir de 2021, là, au tournant de tout ça, on a commencé à décliner le véhicule en plein de formats avec une version hatchback. On a une version GR Corolla aussi, qui est beaucoup plus dynamique.
Corolla, c'était mettons le char que tes parents achetaient. Puis là, maintenant, tu t'es voix au look, t'es comme, OK, c'est pas pantoute.
Oui,
game,
c'est vraiment mieux que c'était. Puis surtout avec le hybride 4 roues motrices, surtout, là, c'est pas un véhicule intéressant sur la route nécessairement, mais c'est un véhicule tellement rationnel que c'est difficile de pas le mettre dans un palmarès simplement. Et notre grande championne, c'est la Honda Civic. Honda Civic qui reprend cette position numéro 1. Moi, je trouve que c'est un produit qui est beaucoup plus agréable à conduire qu'une Toyota Corolla, par exemple. Ouais. Et on a aussi une version hybride qui existe, une version hybride qui est très bien motorisée. Malheureusement, elle n'est pas disponible en 4 roues motrices, donc je pense que c'est un peu ça qui la désavantage face à la Corolla ici. Son prix aussi, qui est un petit peu plus élevé, mais ça demeure toute une machine à conduire. Le moteur de base aussi est très, très fiable et on peut s'amuser avec une version SI ou type R qui ont des boîtes manuelles et qui promettent beaucoup de plaisir. Donc, une voiture qui méritait encore sa première position en 2026.
Est-ce que ça arrive qu'une voiture d'une catégorie type arrive, mettons, top 3 ou même top 2 une année, puis que l'année d'après, ça prend une solide débarque, là?
Ça peut arriver. Souvent, ça serait peut-être relié à un problème majeur de fiabilité. T'sais, on l'a connu dans l'électrique cette année. On a des produits qu'on aimait particulièrement chez RPM, qu'on a placés maintenant en évaluation. Donc, on a passé des recommandés à les placer en évaluation. C'est 7 véhicules sud-coréens, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, qui a un V9, qui a un V6. Donc, des produits fort populaires au Québec. Mais vois-tu, ils ont tellement un problème majeur avec une composante importante qui se nomme le ICCU, qu'après des communications sans fin avec les constructeurs automobiles, des analyses du dossier, on n'a pas de solution. Les gens ont des problèmes plus qu'une fois. Des fois, on peut l'avoir 2-3 fois le problème. Et là, on n'a pas le choix de retirer notre recommandation. Donc, un véhicule qui était top 3 l'année dernière est maintenant retiré complètement de la liste parce que seulement les véhicules qui sont recommandés par l'équipe vont pouvoir faire partie du jeu du palmarès. Donc là, vu qu'on ne les recommande plus, ils ne peuvent plus être là. Fait que vois-tu, ça, c'est une méchante drop en bon français, là.
T'as-tu le top 3, Sam, des voitures dans lesquelles tu peux rentrer une poche de hockey en arrière puis asseoir peut-être 2-3 enfants sur des bancs?
VUS intermédiaire.
Ah, voilà. C'est exactement ce que je disais.
Là. VUS intermédiaire à 3 rangées, très populaire au Québec aussi comme segment. Troisième position, et là, l'année passée, j'avais pas réussi à le faire gagner, cette place-là, mais cette année, j'ai réussi. C'est le Hyundai Santa Fe que je trouve qui mérite vraiment cette place-là. Je le sais que le style est polarisant. Moi, je l'aime. Fait que c'est à vous après ça de décider si vous l'aimez ou pas. Mais ce que j'aime beaucoup du Hyundai Santa Fe.
On est drôle parce qu'une fois rendu dans le char, on le voit plus.
On le voit, mais moi je le trouve beau. Moi je le trouve beau en plus extérieurement. Là. Fait que ça dépend vraiment du monde. Là. Mais ce produit-là, ce que j'aime surtout, c'est qu'il est offert aux alentours de 46 000 $. Vous allez me dire, c'est pas tant cher pour un produit dans ce segment-là. Et vous avez tout à fait raison. On a 3 rangées. Bon, la troisième rangée est plus petite que les 2 autres concurrents qui sont arrivés en première et deuxième place. Mais l'ensemble de la gamme est motorisé par un moteur hybride, faible consommation de carburant, très bonne garantie et très bonne qualité d'assemblage aussi. Deuxième place, valeur sûre, Honda Pilot, véhicule qu'on connaît énormément aussi sur les routes. C'est un modèle qui va cruellement avoir besoin d'une hybridation prochainement. Là. Il va falloir qu'Honda sorte les deux doigts du nez et qu'ils amènent ce genre de mécanique-là dans leur gros véhicule. Mais on a toujours un bon vieux V6 de 3,5 litres. C'est un âne en avant qui est là, on le connaît depuis toujours. Quoique sous enquête là, à la NHTSA pour des modèles antérieurs sur des problèmes mécaniques. Mais bref, ça reste que son bilan de fiabilité reste très solide. On a beaucoup d'espace, bonne qualité de fabrication aussi et mérite clairement cette place-là. Et vois-tu, le gagnant, c'est un nouveau modèle l'année dernière qui n'était pas encore disponible dans le palmarès parce qu'il était en évaluation. Mais après son temps sur le marché, après les données qu'on a actuellement, on le place en première pole. C'est le Toyota Grand Highlander qui prend cette place-là. Vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour les mini-fourgonnettes. Moi, j'adore les vannes. Je trouve que les vannes sont les meilleurs produits pour les familles, pour les gens qui ont des enfants, pour les gens qui veulent traîner des poches de hockey, pour les gens qui veulent faire de la van life. C'est juste parfait comme produit. Mais le Toyota Grand Highlander est probablement la meilleure solution dans le VUS. Je comprends l'idée du look. Là. On préfère souvent le look des VUS. Donc, je pense qu'il arrive bien à cette place-là parce qu'il est offert en mouture hybride, hybride max également, avec plus de puissance. On a un produit qui s'est montré fiable, des mécaniques qu'on connaît bien maintenant et surtout beaucoup d'espace à l'intérieur.
Puis il est pas lettre, là?
Ben, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est là. T'sais, je pense que dans les VUS intermédiaires à 3 rangées, c'est lui que je suis capable de dire « OK, t'achètes pas de van, tu peux acheter ça. »
T'as le droit.
J'aime trop les vannes.
C'est-tu à partir de l'année prochaine que vous allez évaluer des voitures chinoises? Là? C'est quand est-ce que ça commence, tout ça?
Écoute, ça va s'en venir un moment donné. Moi, je commence à avoir hâte de me faire inviter à Shanghai. Là, essayer un char, là, ça va être trippant. Non, mais blague à part, je sais pas à quel point on va voir arriver ça. Moi, comme je vous ai déjà dit à ce micro-ci, je crois pas du tout aux 49 000 véhicules qu'on a mis. Moi, je pense que la Chine, dès qu'il va avoir un pied dans la porte, ça va être une mare de voitures chinoises qui vont débarquer
pour
49
000,
ici,
ça vaut quasiment pas la
peine. Je crois pas du tout là, à ça. J'ai d'ailleurs parlé, j'étais dans un événement cette semaine, puis j'ai croisé des journalistes anglais de l'Angleterre, là, pas des personnes qui parlent anglais, mais des gens de
British.
L'Angleterre, British. Et eux, vois-tu, ont accès aux véhicules électriques chinois et me disaient à quel point ils se sont emparés du marché de la voiture électrique pas chère.
Ben là.
C'est incroyable là-bas à quel point les consommateurs britanniques ont commencé à s'arracher ces produits-là.
On s'entend-tu que dans le contexte international actuel, le fait que ça coûte moins cher va être l'argument d'à peu près n'importe quel consommateur? Puis moi, je me tue à crier ça sur les véhicules électriques depuis à peu près 15 ans. Tant que ce ne sera pas le véhicule le plus accessible, ce n'est pas le véhicule 100%. Qui va être le plus sur nos
100%,
routes.
Puis je suis le premier à le dire ouvertement aussi. La semaine dernière, ou deux semaines, au début du mois de février, il y a eu la folie Fiat 500e. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais la Fiat 500e qui n'avait pas été vendue en 2025 parce qu'elle coûtait trop cher, 42 000 là, pour un véhicule de 227 km. Personne ne voulait ça. C'était pas nécessairement un méchant produit, mais un produit un peu désuet. Et quand on regarde le marché, on se dit ça ne se vendra pas. Justement, c'est ça qui s'est passé. Personne, ils n'ont pas vendu aucun. Et là, en 2026, le constructeur est pogné avec une quantité phénoménale de véhicules.
Fait qu'il baisse le prix.
Fait du dumping, littéralement. Écoute, on a fait des ventes de location pour ce véhicule-là à 125 $ taxes comprises par mois pour un véhicule électrique flambant neuf. Et là, ça a sorti à pocheter. Mais qu'est-ce que ça prouve? C'est quand le prix est là, les gens sont prêts à accepter 227 km, sont prêts à accepter un véhicule plus petit et sont prêts à accepter d'aller dans l'électrique.
Les dernières fois qu'un marché a changé complètement à cause de véhicules moins chers, c'est quand les Coréens sont arrivés sur le marché au Québec, j'imagine. Hein?
Oui, et les Japonais aussi. Quand les premières Toyota, les Datsun à l'époque aussi, quand on arrivait avec ces produits-là qui étaient considérés comme des véhicules plus d'entrée de gamme, ça faisait surtout différence en termes de gabarit, beaucoup plus petite versus ce que les Américains produisaient. Et là, ben, on va sûrement vivre quelque chose du genre avec les produits chinois. Il va y avoir un changement de marché, c'est clair.
Vu qu'on est dans l'électrique, Sam, avez-vous fait le top 3 des véhicules électriques qui performent le mieux?
Absolument. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt...
Il y a tellement de variables.
Ben oui, et pour que les véhicules soient considérés dans nos produits véhicules électriques recommandés, il faut absolument qu'ils soient recommandés par l'équipe de RPM. Et les véhicules électriques ont comme défi d'avoir souvent des problèmes de fiabilité. Donc, il y en a plusieurs qui ne sont pas recommandés par notre équipe. Il y en a plusieurs qui sont en évaluation également. Et au début de la chronique, je vous disais qu'on venait de retirer tout ce qui était des... véhicules électriques coréens, IONIQ 5 et compagnie. Donc, ça nous laisse beaucoup moins de choix. Je vais prendre les VUS électriques à moins de 65 000 $. À la troisième position, c'est selon moi le produit actuellement sur les routes qui promet une bonne fiabilité dans l'électrique. Un produit qui est sous-estimé par beaucoup trop de consommateurs, à mon humble avis. Et c'est le Nissan Ariya.
Okay.
Le Nissan Ariya 2026 arrive à cette position-là parce que pour le moment, sa fiche de fiabilité est bonne. Nissan a une très, très bonne expérience dans la conception des véhicules électriques. Et malgré que ses spécifications techniques soient correctes sans plus, on n'a pas une capacité de recharge qui est très élevée, on n'a pas de l'autonomie à tout casser. C'est pas un produit parfait. Ça risque d'être un des électriques les plus durables actuellement. Deuxième position, un véhicule qui va se faire renouveler prochainement, c'est le Kia Niro EV qui prend cette place-là. C'est bien mérité. Produit qui s'est montré aussi fiable jusqu'à maintenant. On n'a pas fait énormément de changements entre la première génération et celle qui roule actuellement. Donc, on le connaît. On sait qu'il est durable aussi. On le met en égalité en deuxième place avec le Hyundai Kona électrique qui est son jumeau cosmique.
Peu, ouais.
On aurait dit qu'ils sont construits dans la même usine. Là. Donc, c'est littéralement deux frères qui se tapent dans la main.
C'est ce que j'ai depuis 3 mois puis je l'adore.
Oui, ben, c'est un très bon petit produit. Là. Il va se faire remplacer par le EV3 qui est la prochaine génération de véhicules électriques chez Kia qui va arriver.
Il y a une grosse vague qui arrive.
Ouais, exact. Et ça risque d'être assez pertinent, encore une fois, pour le marché. Et vous allez rire un peu parce que, tu sais, des fois, on se dit on est un peu pogné, mais qu'est-ce qui est impressionnant actuellement dans l'électrique, et je dis actuellement, mais ça fait des années, qui offre un très bon réseau de recharge, qui est performant et qui s'est beaucoup amélioré en termes de qualité de construction? Tesla Model Y. Tesla mérite cette première pole parce que c'est dans les véhicules que nous recommandons, probablement encore celui qui est assez avancé technologiquement pour être encore un leader dans le segment et prend cette première place.
Il y a quelqu'un qui demande, pouvez-vous rappeler pourquoi vous ne considérez pas les IONIQ 5 et 6?
Oui, c'est une question de ICCU. C'est un système qui gère toute la recharge du véhicule. Donc, lorsqu'on connecte le pistolet de recharge dans l'auto, on va envoyer de l'énergie à la grosse batterie, la batterie de propulsion, et on est censé aussi recharger via les systèmes embarqués, la batterie 12 volts. Il faut savoir que dans les véhicules à électrique, on a une batterie comme dans les véhicules à essence, la petite batterie qu'on peut booster. Là. Bon. Cette batterie-là s'occupe de gérer les ordinateurs de bord, le chauffage, les systèmes de son, toutes ces choses-là.
La grosse s'occupe de la motorisation.
Exact, pour que la grosse puisse faire son travail. Donc, le problème, c'est que la batterie 12 volts est dans le système ICCU, qui est un peu comme le cerveau du véhicule. On n'est pas capable d'envoyer l'énergie à la bonne place et la batterie 12 volts va se décharger. Donc, souvent, il n'y aura plus d'énergie dans la batterie. Et ce que ça fait, c'est que le véhicule est on ne peut plus l'utiliser. Inopérationnel?
Inopérationnel.
Seigneur Dieu, cherchez mon
Il marche
mot.
Plus.
Il marche plus dans
C'est
ce
ça qui arrive.
Un ouais. char répété.
Boum, voiture.
Boum, boum, boum. Donc, le véhicule arrête de fonctionner et là, on est sur le bord du chemin, en panne, il y a une tortue qui allume. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le problème. Là, on change les batteries, mais souvent, c'est pas le problème. C'est la pièce, là, ici, c'est eu le problème. On rechange la pièce, là. On est rendu à la troisième mouture de cette pièce-là. On sait pas encore si ça va régler le problème. Et là, il y a vraiment trop de propriétaires qui ont le problème pour dire que c'est pas généralisé. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus recommandés
actuellement. La foutue tortue dans un char électrique, c'est le cauchemar.
Audrey,
sérieusement.
Audrey, ça te prend une borne à la maison.
Mais je sais.
Ça te prend une maison.
Ça me prend une maison en premier. C'est ça l'affaire.
Quand je prends la maison, puis mets la borne.
Hey, question d'un auditeur. Est-ce que Sam Tremblay-Michaud pourrait donner son avis sur le nouveau Uncharted de Subaru et s'il le recommande comme deuxième véhicule familial, le premier étant un VUS à essence?
Je suis allé l'essayer la semaine dernière en Californie. Je fais partie des gens qui ont écrit les premiers textes. D'ailleurs, tu vas avoir mon avis complet, rpmweb.ca, tout est là.
Good.
Mais le Uncharted est un produit que j'ai trouvé très abouti dans l'électrique.
Ah oui?
Oui, vraiment. C'est une collaboration entre Toyota et Subaru. Là. C'est copié-collé.